écoutez devdevdev.net, le podcast des développeurs francophones Microsoft.net. Bien, et ben bonjour et bienvenue pour ce 43e épisode de notre podcast devdevdev.net. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur de recevoir Laurent Campé. Bonjour.
Salut Richard, bonjour tout le monde.
Laurent Campé, donc, qui est Microsoft MVP depuis 2003, catégorie développeur technologie, team leader et distinguished solution architect chez Inoveo. Et nous avons également Damien Van de Kerkhoff, bonjour.
Bonjour tout le monde.
On peut dire maintenant Microsoft MVP depuis 2 heures, à peu près.
C'est ça, oui, félicitations.
Félicitations. Et également software engineer chez Portimar. Alors aujourd'hui, donc pour cette table ronde, alors comme le disait Laurent avant qu'on lance l'épisode, on a eu une table ronde qui était un petit peu longue, donc on l'a séparée en deux. Donc là c'est la deuxième partie. Aujourd'hui, bah, Laurent, toi tu voulais nous parler de la suite de l'épisode d'avant concernant ouais. L'intégration, l'utilisation de LLM, l'intelligence artificielle, en local, donc sur son propre PC.
Ouais, exactement. Donc moi j'ai continué un peu à explorer ce monde-là parce que c'est vraiment un monde qui m'intéresse bien. C'est un peu toi qui m'a mis le pied à l'étrier avec Semantic Kernel de Microsoft, ouais. Et l'épisode qu'on avait fait. Mais ce qui m'intéressait toujours, c'était justement de faire tourner ce qu'on appelle LLM, Large Language Model, sur ma machine pour pas avoir besoin d'une ressource sur le cloud ou quelque chose comme ça. En plus, avec les cartes graphiques qu'on a, ça tourne, il y a des choses qui tournent pas mal. Donc, le mois dernier, je vous ai parlé d'un outil qui s'appelle Llama Edge, qui est basé sur Wasm Edge, qui m'intéressait beaucoup parce que c'est lié à WebAssembly, WASI et tout ça. Et ça lie maintenant les LLM, donc c'est pour ça que cet outil-là m'intéressait. Par contre, il est un peu compliqué à installer sur un système Windows parce qu'il faut passer par WSL, il faut installer des drivers NVIDIA et tout ça, donc c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai continué à chercher s'il y avait d'autres solutions plus faciles, et je crois 2 jours après que je cherche, il y a un autre outil qui est sorti. Mais avant ça, je voulais vous parler de la nouvelle version de Llama Edge qui est sortie en version 0.4.0. Donc ça fait, encore une fois, ça permet de faire tourner des large language models sur sa machine, sur le CPU ou le GPU, en fonction des modèles et des outils aussi. Et il supporte maintenant un modèle qui est assez intéressant, qui s'appelle Lava, et qui est en fait un modèle de langage visuel multimodal. Alors qu'est-ce que ça veut dire un peu ce truc,
oui,
quoi.
Donc
généralement les LLM, on a l'habitude de discuter avec eux en langage, en tapant du texte à travers une chat UI ou ce genre de choses. Et ben là on peut lui fournir, donc le multimodal c'est plusieurs modèles, donc un modèle c'est le texte, et là on va pouvoir rajouter des images. Donc là, on va pouvoir donner, par exemple, une des démos, c'est il monte évidemment l'image de Mona Lisa, et il va demander au LLM qu'est-ce que représente cette image, quoi. Et le LLM va lui répondre que c'est Mona Lisa, quoi, et qu'il va pouvoir en parler un peu plus. Donc ça, c'est une des nouveautés de cette version 0.4 qui permet d'avoir ce côté multimodal, et donc d'avoir des textes et des images, et de faire encore tourner ça sur sa machine, ce qui est relativement dingue, quoi.
Ouais, et surtout, ta machine, c'est quoi, c'est pour la décrire un peu, c'est au niveau de la puissance
Alors, c'est... je sais plus. Ça fait quelques années que j'ai, mais... Attends,
oui, ça fait quelques années que tu l'as, donc c'est pas un Core i9 avec...
C'est quand même une belle bête, hein. Même si ça a quelques années. C'est un 12e génération Core i9.
Oui. 12900K.
Et en processeur vidéo, j'ai une NVIDIA RTX 3060. Alors,
ouais, d'accord. Ouais. Bon, c'est une belle bête. À l'époque, si il y a quelques années que tu l'as, ça devait coûter un bras.
Ah, ça allait encore, franchement, ouais. J'étais étonné. Mais ça va.
Oui. C'est pas une machine accessible au jour d'aujourd'hui, quoi.
Non, non, tout à fait, ouais, absolument pas, non. Et donc, pour revenir à Llama Edge, il supporte aussi maintenant ce qu'on appelle RAG, Retrieval Augmented Generation. Donc ça, c'est un peu une technologie qui va permettre à LLM, ça coûte très cher à entraîner, et ça va permettre, si je vulgarise un peu le truc, c'est de convertir des blocs de documents. On va lui fournir des documents pour enrichir ses connaissances. Enfin, c'est un peu un fake, quoi. On va lui dire, tiens, prends ces documents-là, et tu vas maintenant commencer à connaître ces documents. Et en fait, lui, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des opérations mathématiques, on va créer ce qu'ils appellent les embeddings. Et ces embeddings, ils vont être envoyés sur un serveur. Là, dans ce cas de Llama Edge, c'est Quadrant. Et donc, ils vont sauver une base vectorielle, exactement. Ils vont sauver ces vecteurs. Et en fait, quand on va discuter avec le LLM, il va projeter notre texte vers ces vecteurs, chercher dans la base de données et augmenter le prompt qu'il va envoyer au LLM avec des contenus, des documents qui semblent matcher ce dont on parle. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir des choses qui, bah, par exemple, qui connaissent de la donnée sur votre entreprise qui est peut-être pas publique et que vous voulez pas mettre autre part, mais vous voulez pas payer pour entraîner un LLM, quoi. Donc voilà pour cette nouvelle version de Llama Edge. Et comme je disais, comme c'est un peu lourd à utiliser sur Windows, j'ai cherché un peu d'autres alternatives. La première que j'ai trouvée, c'est un truc qui s'appelle LM Studio. Je vais en reparler un peu après, mais c'est plutôt celle qui m'intéressait, c'était plutôt Olama. Donc je te donnerai les URL et tout ça. Ouais. Mais pourquoi Olama? Parce que ça semble être vraiment une solution super simple. Moi, ce qui m'intéressait en fait, c'était de faire un petit projet qui marie pas mal de techno, comme .NET Aspire, quelques services qui vont se connecter à un outil que j'utilise qui s'appelle Omnivore, qui me permet de faire de sauver du contenu d'un site que je veux lire plus tard. Et là, en fait, je voulais faire une petite application avec .NET Aspire qui allait récupérer ces contenus et qui allait demander de faire un résumé en quelques mots ou en deux, trois phrases du contenu du site web, enfin du blog post. Et donc, Olama m'a permis de faire ça relativement facilement. J'avais déjà une version qui marchait avec OpenAI, parce que .NET Aspire a fait un composant pour s'interopérer avec OpenAI de façon aussi super simple. Mais comme moi, je veux faire ça, tourner ça sur ma machine, Olama est arrivé juste à temps. C'est un setup à télécharger. On le lance, ça s'installe sur sa machine. Et après, c'est relativement simple parce que c'est une commande, ça marche en ligne de commande. On va taper Olama Run, le nom d'un modèle qui supporte. Là, par exemple, le dernier que j'ai utilisé, c'est Gemma ou Rema, ou je sais pas comment ils disent. C'est un modèle de Google qui vient de sortir. Et Olama supporte un certain nombre de modèles. Et donc, on va taper cette commande, Olama Run, c'est un peu comme Docker, il va voir, tiens, je l'ai pas sur ma machine, donc il va faire un fetch, il va récupérer depuis Internet ce modèle, le télécharger sur sa machine.
Les 253 Tera?
Ouais, quelques gigas. celui-là, c'est 1,5 giga, je crois, ou 2 gigas, ouais. Je crois, de mémoire. Et après, dans votre prompt, vous aurez un chat, quoi, et vous pouvez poser des questions. Mais ce qui m'intéressait plus encore, c'est que quand on lance Olama Run, il va exposer donc cette ligne de commande, et je peux chatter, mais il va exposer aussi un serveur web sur le localhost 11434. Et ce serveur web, il expose une API OpenAI Chat Completion. Donc ça marche super bien avec Semantic Kernel. Et pour ceux qui ont suivi l'épisode de la dernière fois, j'avais un peu dû hacker le système pour que ça marche correctement avec Llama Edge. Là, ça a marché directement. Donc j'ai plugué mon Semantic Kernel, je lui ai donné l'URL de où était mon serveur compatible OpenAI, je lui ai donné le texte que je récupère de mon blog et m'a fait le summary. Et ça marche franchement vraiment très bien, quoi. Donc, c'est un petit projet, ils sont super réactifs. J'ai une mise à jour où j'ai eu une grosse alerte Windows. Attention, il y a un gros virus dessus. Et je leur envoie un tweet et ils m'ont répondu dans les 2 minutes qu'ils étaient déjà en train de checker ça avec Microsoft et que le problème est connu. Il y a une update Windows de Defender et ça s'installait sans problème. Il y a d'autres API qui vont arriver puisque OpenAI a maintenant un bon petit set d'API. Et donc, moi, j'ai bien aimé cet outil-là parce que déjà, je suis sur Windows, c'est super simple à installer. C'est une ligne de commande et je suis prêt après avoir téléchargé les gigas des LLM. Et ce truc a marché directement avec Semantic Kernel, donc ça répondait vraiment bien à mon besoin. Comme je disais, ils sont super réactifs. Le site web, il n'y a quasiment rien, il y a un blog. Sinon, il faut aller sur le repo GitHub pour avoir un peu plus d'informations. Il me semble qu'il y a un truc Discord, un chat Discord ou quelque chose comme ça. Et le deuxième outil que j'ai essayé, c'est LM Studio. Je l'ai même essayé avant Llama. J'en parle en deuxième parce que c'est un truc qui est beaucoup plus complet.
Mais plus compliqué.
Qui est plus compliqué, exactement, c'est ça. Mmh. Donc, ça vient avec une interface web. Enfin, je pense que c'est fait avec un truc web Chrome, là, je sais plus comment ça s'appelle maintenant. Il y a une interface graphique, alors c'est sympa parce que ça permet de chercher des modèles qui vont être téléchargés depuis Hugging Face et tout ça, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à mettre en place, et je pense que dans une première phase, Llama est plus facile, et après, c'est vrai que quand on s'intéresse vraiment au sujet, peut-être que LM Studio permet de paramétrer plus de choses et faire plus de choses, quoi. Mais pour l'instant, moi, Llama me suffisait, quoi. Voilà. Okay. Donc, pour mon aventure, pour le moment, dans ce domaine-là.
Bon, mais non, c'est intéressant parce que ça permet de déchiffrer et puis de voir un peu comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que d'avoir son propre LLM sur son propre serveur, je pense que pour un certain nombre d'entreprises, ça peut être intéressant. Mm-hmm. Et t'as pas essayé avec Mistral, là ?
Non, j'ai pas encore essayé Mistral, mais je pense que je vais l'essayer pendant ce week-end, ouais, effectivement.
Ouais. Damien, toi, t'as essayé de jouer avec ce genre de truc ?
Non, pas du tout, et il faut que je trouve du temps parce que ça m'intéresse. J'adore écouter Laurent parler, surtout qu'il a l'air vraiment très content de ce qu'il fait. Donc, il faut vraiment que j'arrive à me trouver du temps pour ça.
Oui, c'est vrai que ça prend du temps parce que de toute façon, il faut arriver à installer les machines. Et puis,
non, mais là, franchement, avec Llama, ça prend quasiment pas de temps, quoi.
Ouais.
Voilà, le seul truc qui m'a pris le plus de temps pour mon espèce de prototype pendant le week-end que j'ai fait en peut-être 2 heures, c'était de fine-tuner le prompt parce que je voulais avoir le résumé, mais je voulais qu'il me sélectionne des tags aussi pour les articles. et je voulais qu'il les sélectionne dans un ensemble que j'avais défini de tags. Et ça, j'ai pas trouvé un prompt qui arrivait à le faire. Et là, je me suis vraiment arraché les cheveux et j'ai toujours pas de solution pour l'instant.
Ouais, c'est pas là, c'est plus une solution, c'est plus une problématique entre guillemets technique. C'est un, c'est est-ce que mon prompt est bon, et deux, est-ce que j'ai un LLM qui est capable de comprendre ce type de prompt, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ou alors peut-être que je lui demande trop en un prompt, quoi. Je sais pas.
Ok, bon, bah, écoute, merci. Et bah, maintenant, on va passer à Damien, notre nouveau MVP. Youpi.
Félicitations.
Cet été, tu nous avais parlé déjà de Poly, je crois.
Oui.
Et là, tu veux nous en reparler.
Oui, mais d'abord, j'ai un autre petit sujet.
Ah, pardon.
Qui est... je vais d'abord parler de Swashbuckle. Donc, c'est la bibliothèque renommée pour la génération des documents Swagger pour les applications .NET. Et dans l'épisode 32, donc avec le scandale de MockU, en septembre 2023, j'avais mentionné que Swashbuckle n'avait pas été mise à jour depuis le début de l'année 2023 et que le volume d'issues et de pull requests ouvertes augmentait continuellement. Alors, il y a 2 semaines, il y a un utilisateur avec le pseudo Avinen. En fait, il a créé un fork du projet, rebaptisé .swashbuckle, et il a commencé à s'attaquer aux issues non résolues, soit en intégrant les solutions proposées dans les pull requests existants de SwashBuckle, soit en apportant lui-même les corrections et d'en profiter pour migrer vers .NET 8. Alors, à ce jour, il n'y a aucune annonce officielle qui a été faite. Et même s'il n'y a pas de communication spécifique, le package Nugget a déjà été téléchargé plusieurs milliers de fois depuis sa création, ce qui n'est pas beaucoup. Alors, est-ce que le fork est une bonne initiative ou pas, je ne sais pas, mais face à l'inactivité du créateur de SwashBuckle, peut-être que Avignon avait tenté d'obtenir le rôle de mainteneur, mais qu'il n'a pas eu de réponse. Donc, je pense que c'est une situation qui mérite d'être suivie. Le gars a quand même réalisé un travail assez colossal, et c'est courageux de sa part de ce qu'il fait, donc je dirais wait and see. On peut suivre ça de près, quoi.
DevDevDev.net. Richard Clark.
Et donc maintenant, on va pouvoir parler de Poly.
Oui, donc oui. Le deuxième sujet concerne la librairie Poly. Donc, c'est une bibliothèque .NET de résilience et de gestion des erreurs transitoires qui permet aux développeurs de créer des stratégies de résilience telles que retry, circuit breaker, timeout, rate limiter, etc.
Oui, super.
Alors, on en avait déjà discuté dans un précédent podcast, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de cette bibliothèque et j'invite simplement les auditeurs qui veulent en savoir plus à y écouter ce podcast. Mais en fait, il est important de noter que Poly a complètement revu son architecture pour la version 8 et lancée en septembre 2023. Alors, par exemple, les policies, donc les politiques, elles ont été renommées en stratégie de résilience. Donc, c'est un terme qui est jugé plus approprié. Et la version, elle introduit également la notion de pipeline de résilience. En fait, ça facilite la combinaison de différentes stratégies de résilience qui étaient déjà possibles auparavant avec les policies ROAP. Et en fait, c'est maintenant s'intégrer de façon un peu plus fluide. En fait, toutes les stratégies, maintenant, sont traitées à travers ce nouveau système de pipeline, même s'il n'y a qu'une seule stratégie. Donc, avant la version 8, lorsqu'on voulait appliquer une stratégie de résilience, on disait, tu utilises cette stratégie, puis celle-ci, puis celle-ci. Maintenant, on crée un pipeline de résilience, et dedans, c'est dans ce pipeline qu'on définit les stratégies.
D'accord.
Moi, et alors aussi... Oui.
Mais non, vas-y.
Alors, il y a aussi plus besoin de naviguer entre différentes interfaces, comme par exemple, on avait la iAsync Policy et la iSync Policy selon qu'on souhaite exécuter des opérations de manière asynchrone ou non. Tout ça a été éliminé et tout est unifié au sein des Resilience Pipeline qui prennent en charge tous les flux maintenant, que ce soit synchrone ou asynchrone. Alors, une autre nouveauté, c'est que cette nouvelle version, elle abandonne également l'usage des méthodes statiques, ce qui améliore la testabilité et l'extensibilité, tout en conservant en fait un code simple pour Poly. Et alors, une dernière nouveauté de la version 8, c'est que maintenant Poly offre une télémétrie pour toutes les stratégies de résilience intégrées, enrichie de tags utiles pour un débogage, tels que par exemple le nom de la pipeline, le nom de la stratégie, la clé d'identification de l'opération, etc. Mais en fait, Poly, il avait depuis quelques années maintenant un compagnon qui s'appelait Simi, dont l'image, en fait, c'est le pirate du perroquet Poly. Et qu'est-ce qu'il permettait de faire? Il permettait d'ajouter du chaos au sein de notre application. Donc, pour rappel, le chaos engineering, c'est une pratique qui consiste à tester un système en introduisant des perturbations ou des conditions inattendues. L'objectif, c'est de s'assurer que la capacité du système à rester stable et fiable dans des conditions difficiles.
Ouais, alors, ça simule, par exemple, on fait un appel à une base de données, pouf, la base est down, ou ce genre de choses, quoi.
C'est ça. Alors, je partagerai un lien vers la documentation Microsoft Learn qui explique l'ingénierie et la résilience du chaos pour ceux qui désireront en savoir plus. Et Simi, qu'est-ce qu'il proposait? Il proposait de pouvoir injecter des exceptions de manière contrôlée. Par exemple, une fréquence, on dit une fois sur 20, on génère une exception. Il permet aussi de substituer le résultat d'une méthode par une réponse factice prédéfinie, toujours selon une fréquence déterminée. Il permet aussi d'ajouter de la latence ou même d'exécuter une action spécifique avant l'appel d'une méthode particulière, encore une fois, toujours à une fréquence déterminée, 1 sur 20, 1 sur 100, etc. Alors cependant, malgré ces fonctionnalités intéressantes, ce package il n'a jamais rencontré succès escompté. Et en fait, il est toujours resté la version 0.3.0. Et la dernière release, elle remonte au 3 janvier 2020. Donc, forcément, on est un petit peu réticent à l'intégrer dans nos projets actuels, parce que 2020, ça fait quand même depuis 4 ans. Alors, vous vous interrogez sûrement sur la pertinence de discuter d'une bibliothèque datant de 2020, surtout que bon, ça retarde l'apéro. La raison, elle est simple, c'est que depuis la mise à jour 8.3.0 qui est disponible depuis un mois, au fait, Poly a incorporer directement les fonctionnalités d'ingénierie du chaos au sein de sa bibliothèque. Donc,
D'accord.
comme aujourd'hui, on peut intégrer des stratégies de retry, maintenant on a la possibilité d'ajouter de l'ingénierie de chaos dans nos pipelines de résilience.
Ouais, donc c'est plus une consécration que qu'autre chose, quoi.
C'est ça, oui.
L'autre consécration, c'est que Poly est intégré dans .NET Aspire directement.
D'accord.
Je t'enverrai aussi le lien du blog qui parle justement de cette intégration du chaos engineering dans Poly.
Ok, bon, bah écoute, c'est vrai que Poly, moi juste une petite question. Cette version 8, il y a une compatibilité ascendante avec les versions d'avant ou pas?
Je dirais que comme tout change, je pense que tu auras des breaking si tu passes en version 8. Parce que
D'accord.
déjà, rien que le nommage de Poly 6 en stratégie, après, je n'ai pas été vérifié s'ils ont gardé les deux, mais comme les noms changent, à mon avis, tu risques d'avoir des breaking changes.
Ouais, donc c'est quand même une mise à jour qu'il faut prendre avec précaution, quoi.
C'est ouais, c'est une refonte de l'architecture complète. Donc, effectivement, on risque d'avoir des surprises quand on va passer dans la version 8.
D'accord.
Après, un changement de version majeure, on a toujours des petites surprises qui arrivent.
Ouais, enfin là, bon. Ok. Bien, bah, écoute, merci. Merci Damien. Et nous arrivons à notre dernier intervenant qui est arrivé enfin à se connecter. Bon, il est un peu vieux, il a du mal à se connecter à Internet, il ne sait pas comment ça marche et tout. Donc c'est Olivier Dahan, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde, parce que j'ai loupé le bonjour général au début.
Donc Olivier, qui est Microsoft MVP depuis 2009, développeur technologie, fondateur de la société Inaxos, société de consulting et de formation sur .NET, C-Sharp, Maui et WPF. Et donc il y a Laurent qui nous a parlé de LLM en local au début de l'épisode. Et toi, tu voulais nous dire que enfin, tu voulais poser la question, faut-il avoir peur de GitHub Copilot?
Exactement. En fait, il s'agira surtout de présenter pour ceux qui ne savent pas exactement à quoi s'attendre, et puis effectivement de soulever la question. Donc, il y a quand même des questions qui se posent là-dessus, on le voit bien, mais c'est le même problème avec beaucoup d'IA. Faut-il avoir peur de GitHub Copilot? C'est un outil révolutionnaire qui s'intègre à Visual Studio, mais pas seulement. Mais cette question, on l'entend d'ailleurs pour ChatGPT, pour plein d'autres trucs. Mais GitHub Copilot, il s'attaque frontalement quand même à notre savoir-faire, à notre cœur de métier, c'est-à-dire programmer, etc., etc. Donc la peur naît souvent de la méconnaissance, ça on le sait, donc quand on ne connaît pas bien, on peut en avoir peur. Alors je vous propose d'examiner un peu ce concept, son fonctionnement et surtout d'évaluer les implications dans son utilisation de notre pratique quotidienne du développement d'abord. Alors qu'est-ce que c'est que GitHub Copilot? Pour ceux qui ne savent pas, d'abord ça n'a rien à voir avec GitHub, le gestionnaire de version. GitHub Copilot, c'est une IA au service du développeur. Et ce n'est pas seulement un outil parmi d'autres, il présente une véritable révolution dans la manière dont nous concevons et écrivons du code. Alors, j'utilise ici, et à dessein, et non par mode, des termes grandiloquents de marketeux, mais je vous rassure, je suis toujours développeur, pas commercial, Dieu m'en préserve, et c'est bien sous l'angle technique que le bouleversement s'opère pour des modifications. Des motivations qui sont vraiment rationnelles, mais j'y reviendrai. Donc, introduit par GitHub en juin 2021, et ça a été développé à partir de Codex d'OpenAPI, donc un petit cousin de GPT, hein, une sorte de GPT-3 qui a été spécialement entraîné pour la programmation. Donc, Copilot se présente comme une assistance de codage, capable de fournir des suggestions de code intelligentes et contextuelles, mais cette assistance avancée soulève une interrogation, celle de la dépendance à l'intelligence artificielle dans le processus de développement, et peut-être plus loin, la peur d'un grand remplacement, mais par l'IA, celui-là, nouvelle peur néoconservatrice du moment. Donc, D'abord, il faut voir comment ça se passe. Comment on installe et comment on utilise Copilot, bah, c'est très simple. Hein. L'installation de GitHub, elle passe GitHub Copilot, elle passe dans Visual Studio ou VS Code, par exemple. C'est simple, on télécharge un package et puis une fois qu'il est dedans, il s'active. Bien sûr, il y a un petit détail qui peut-être peut freiner un certain nombre d'adopteurs, c'est que il faut quand même un abonnement payant. Hein. C'est pas complètement gratuit. C'est pas
des fois, ça gêne, oui.
C'est dommage d'ailleurs, parce que c'est très bien, mais bon, c'est comme toutes ces machines qui marchent loin, il faut bien que quelqu'un les paye. Donc, il faut un abonnement payant qui est plutôt raisonnable, mais dont je ne me rappelle plus le montant exact d'ailleurs, pour accéder donc à toutes ces capacités. Mais bien que cet aspect-là puisse paraître anodin ou pas, ça dépend du budget qu'on a, il s'inscrit quand même dans une réflexion plus large sur la valeur ajoutée par l'IA dans nos outils de développement et le coût que nous sommes prêts à investir pour maintenir notre productivité à son apogée. On verra que ce n'est pas si idiot que ça. Alors, que peut faire GitHub Copilot? Je l'ai dit, c'est de l'assistance au codage. On va dire que c'est de l'intelligence sous stéroïdes, quoi, je veux dire. En suggérant des lignes de code ou des fonctions entières durant la frappe, GitHub Copilot a le potentiel de transformer notre approche de la programmation. Mais cette facilité d'accès à des solutions préconçues, même si c'est adapté au code qu'on a déjà écrit, etc., c'est quand même assez fort, hein, nous conduit-elle vers une standardisation du code qui pourrait étouffer la créativité ou affaiblir la connaissance? Bon, d'un autre côté, quand on a inventé le marteau-piqueur, est-ce qu'on s'est demandé si ça n'allait pas affaiblir les muscles des travailleurs qui maniaient la masse et le burin? Je ne crois pas. Hein, il ne me semble pas avoir retrouvé de traces de grandes discussions de ce genre-là. Donc, on a en plus un truc qui est vachement intéressant, qui est, bon, bah, quand on tape, il y a des choses qui apparaissent, on peut invoquer, bien sûr, Copilot comme on veut, mais il y a un truc qui s'appelle la fenêtre de discussion. Donc là, vous allez me dire, bah, c'est quoi, c'est Chat GPT qui est intégré dans Visual Studio, en quelque sorte, mais je vous rappelle que c'est un Chat GPT spécial, c'est Codex, qui, lui, a été entraîné à faire de la programmation, donc c'est un peu différent. Donc, cette fonctionnalité, elle offre une interaction presque humaine avec l'outil, en langage naturel, comme on a l'habitude maintenant avec des trucs comme ChatGPT, qui permet de discuter pour obtenir des éclaircissements ou des suggestions de code. Et c'est peut-être ma fonction préférée dans GitHub Copilot, parce que si on est très grand débutant et qu'on essaye de se faire écrire du code automatiquement, je pense qu'on va aller se gouffrer. Mais quand on sait à peu près programmer, par contre, c'est des fois bien d'avoir une confirmation, parce que c'est comme avoir toutes les docs sous la main, en fait, interrogeables en langage naturel. Ça symbolise un peu la convergence entre l'homme et la machine, mais aussi le risque de s'en remettre de trop à l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes complexes. Alors, c'est une peur souvent exprimée, en tout cas. En réalité, les propositions ne sont pas toujours justes. Ça, c'est évidemment ce qu'il y a de bien dans le truc. Par exemple, l'autre jour, j'ai essayé un truc, vous demandez un code pour créer un contrôle sous MAUI. Bon, j'ai toujours ma fixette sur MAUI, donc bon. Et il peut vous proposer une classe, il avait écrit tout un code qui était super joli, seulement il était parti comme contrôle de base d'un user control. C'est une classe qui existe sous WPF, sous UWP, sous WinUI, mais c'est une classe qui n'y a pas sous MAUI. J'ai dit, bon, mais dis-donc, tu ne te rends pas compte que bon, il n'y a pas de user control dans le machin. Il faudrait peut-être un content view, en fait, pour créer un user control. Alors là, il s'excuse. En général, souvent, c'est dans une discussion, je l'ai souvent, il s'excuse. Ah, je m'excuse, j'ai oublié ça. Ah, ben voilà. Il te représente un truc, des fois, c'est encore faux. Donc, je dis, non, ça, c'est pas ce truc-là. Et il finit par te donner le bon. Et bien sûr, c'est très dommage pour celui qui n'a pas l'expertise suffisante pour demander la correction du code proposé. Hein, ouais. C'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois quand on a parlé d'IA. C'est donc pas une redite de la programmation pour les nuls. Au contraire, il faut être capable de comprendre et de corriger ce qui est proposé, sinon mieux vaut passer son chemin. Les IA actuelles sont des outils d'experts, on ne le dira jamais assez, que cela soit pour écrire une lettre de motivation, une poésie ou du code. Demandez à ChatGPT de vous écrire une poésie, si vous n'êtes pas vous-même un minimum doué, je veux dire, ça risque d'être mauvais, quoi, je veux dire, bon. Alors que si vous êtes doué, ça peut vous aider, ça peut booster un peu votre productivité. Donc GitHub Copilot ne se limite pas à générer du code, hein. Il participe à l'apprentissage continu du développeur, c'est comme ça que moi j'aime bien l'utiliser, en proposant des solutions des fois innovantes auxquelles on n'aurait pas pensé, et en aidant à naviguer dans des bases de code complexes. Bon, il ne sait pas encore tout lire le projet dans lequel on se trouve, mais enfin bon, on arrive à s'en sortir. Alors cette capacité d'adaptation d'apprentissage évoque une collaboration assez enrichissante plutôt qu'une simple dépendance d'ailleurs, ce n'est pas vraiment un outil, donc c'est comme un partner ou quelque chose comme ça, quoi. Par exemple, il s'adapte au style et aux choix existants de votre code pour ses propositions. Et ça, c'est assez impressionnant, parce qu'on a écrit un truc d'une certaine façon, une fois ou deux, quand on lui dit là, complète le code qui est là, il va réutiliser ce qu'on a fait ailleurs dans d'autres méthodes plus haut, et il va le réécrire de la même façon. Par exemple, des paramètres qu'on passe ou pas à une méthode, bah, il va faire pareil, il ne va pas passer ce qu'on n'a pas passé, quoi. Donc, c'est assez sympa. Donc, on peut même être perplexe devant cette nouvelle alliance, mais pourtant, personne n'a jamais eu peur d'un stagiaire pas trop bête. Quoi. Donc, faut pas s'en inquiéter. Alors, faut-il craindre cette évolution? En somme, finalement, la question de la peur vis-à-vis de GitHub Copilot ou d'autres IA hein, nous renvoie à une réflexion plus large sur l'évolution de la programmation, si on reste dans notre boulot. Nous sommes passés de la programmation binaire par interrupteur physique hein, sur les vieux, les premiers ordinateurs, à l'assembleur, puis au langage de haut niveau et au paradigme objet, atteignant, je le crains, les limites de tous ces outils pour maintenir la maîtrise et donc la productivité des logiciels qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour continuer à programmer du code de plus en plus sophistiqué, on a besoin d'outils intelligents. Avoir juste une doc interrogeable par Google, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut des outils qui sont intelligents eux aussi. Alors, je ne suis pas d'ailleurs certain qu'un chétif maniera plus facilement un lourd et vibrant marteau-piqueur s'il n'a pas déjà la force de buriner la pierre à la masse. Hein, je veux dire, donc là, c'est pareil. La différence est donc dans la surface traitée, pas forcément dans le truc. C'est vraiment un truc d'expert, je le redirai. L'IA n'est que cela. Ça, en fait, c'est un marteau-piqueur pour développeurs déjà musclés. En fait. Elle ne rendra pas un chétif du bulbe capable de piloter un projet sérieux. Quoi. Je veux dire, ça me semble une évidence. Hein, donc, GitHub Copilot se caractérise cette nouvelle ère d'outils. On en voit bien, ça apparaît partout. Et qui, loin de nous remplacer, il ne faut pas en avoir peur, nous assiste pour maintenir notre productivité dans des environnements technologiques complexes et en constante évolution. Alors, à la différence de l'ébéniste qui, par exemple, dispose d'une vie entière pour maîtriser son ciseau à bois, bon, j'exagère un peu, nous développons, nous, les développeurs, nous devons maîtriser des tas d'outils différents et changeants tous les 6 mois. Quoi, je veux dire. Sans l'aide de ces nouveaux outils intelligents, nous ne sommes tout simplement plus assez forts pour tout savoir, pour tout voir, pour tout connaître par cœur et rester à jour de notre savoir-faire. Et des outils de recherche comme Google sont trop simples et pas assez intelligents pour nous aider dans ce qu'on fait. Quoi. Alors ainsi, plutôt que de craindre GitHub Copilot, bah, il faut le prendre comme un partenaire dans notre quête de solutions logicielles toujours plus élaborées. Ce n'est pas une menace, mais un allié qui nous permet de rester à l'avant-garde du développement logiciel, prêt à relever tous les défis de demain. Les projets deviennent trop techniques et complexes pour les traiter comme les applications d'hier, mais ça, c'est une évidence. Et multiplier, par contre, les bons développeurs pour les patrons, ce n'est pas si facile parce qu'il faut les trouver, il faut les payer. En revanche, adjoindre au bon développeur un bon coworker, intelligent à la connaissance livresque, ça, c'est un truc qui peut se faire. Et ça, c'est GitHub Copilot. Donc, à combien estimez-vous votre productivité, vous ou votre employeur? Êtes-vous prêt à payer, ou est-il prêt à payer le prix de l'abonnement? Ça, chacun verra. Mais attention, il va y avoir ceux qui servent des IA et ceux qui ne s'en servent pas. Et en fait, si vous voulez un conseil pour votre carrière, ce sont ceux qui s'en servent dont vous devez avoir peur, mais pas des IA elles-mêmes.
Laurent, tu voulais ajouter?
Ouais, très bon point. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. La dernière phrase, là, c'est super important. Et je tiens à dire aussi, il y a 3 jours, GitHub a lancé GitHub Copilot Enterprise, qui est disponible pour tout le monde et qui va en fait entraîner. Donc, ça utilise des large language models dont on a parlé avant. Et qui sont entraînés spécialement, comme le disait Olivier, sur du code. Mais là, en fait, ils vont pouvoir entraîner leur large language model sur votre code. C'est-à-dire que le modèle connaîtra votre code, qui est certainement privé, quoi, si vous travaillez dans le monde de l'entreprise. Et donc ça, c'est encore, ça ramène, je pense, la solution encore à un autre niveau. Oui,
tout à fait. Il y aura certainement des réticences, encore une fois, de donner du code privé de l'entreprise à une intelligence artificielle, mais enfin, c'est vrai que ça risque d'apporter un plus sérieux. En tout cas, quand il y a des bonnes pratiques dans une boîte, autant que tout le monde les adopte. Quoi.
Bah, tu vois, c'est marrant parce que hier, j'ai présenté dans mon entreprise, moi, le GitHub Copilot et JetBrain AI Assistant à tout le monde, qui est un peu le pendant. Et on est arrivé sur le même truc, quoi. On se disait vraiment que les gens qui ne vont pas utiliser ça, ils vont être un peu en retrait. Quoi.
Bah ouais, à terme, même, ça va mettre un sacré écart, je pense, entre les gens.
Ouais.
Bon, bah sur ces bonnes paroles, moi, je vous avouerais que ça me sert bien pour... quand on fait du full stack... on a beau dire qu'on fait du full stack, on n'est pas compétent dans toutes les couches. Oui, oui. Et c'est vrai que ça permet de se débloquer sur certains aspects. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est que si tu as une boîte avec 50 développeurs, il va falloir faire quand même passer la pilule d'avoir cet abonnement mensuel pour les 50 développeurs, quoi.
Mais il va peut-être falloir savoir aussi qu'à un moment donné, ça ne pourra pas suivre au niveau de la production des softs. Quoi. Donc, si on a une boîte qui fabrique du soft, à un moment donné, il faut avoir des outils qui vont avec. Quoi.
Ouais. Exactement.
Il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est drôle de gens comme nous, qui sont pas des débutants, de le dire avec sans honte, quoi, une sorte de coming out. Non, on ne connaît pas tout par cœur, quoi. Je veux dire, c'est pas vrai. Ça change trop vite les technologies. On ne connaît pas toutes les couches, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme tu l'as répété toi, Richard. On ne connaît pas toutes les couches. Et à un moment donné, savoir faire le paramétrage de tel machin, de tel zinzin, s'il faut aller lire 25 pages sur Google, c'est une perte de temps immense. Alors que demander à Copilot ou à Richard Peur, c'est pareil. Je veux dire, je pense que ça fait. On a besoin de ça. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'on ne sait pas tout. Quoi. Ça, c'est une évidence.
Ouais, et puis, c'est un outil comme un autre. On a commencé avec des text editors ou même des switches, comme tu disais. On est passé au text editor et on est allé sur des IDE, des choses comme ça. C'est un outil en plus aujourd'hui qui sert. Et je suis persuadé qu'un manager qui, quand ça sera vraiment prouvé que ça augmente la productivité, ce que GitHub a dans son message, payer $10, $20 par mois pour un développeur, c'est sûr que quand on ajoute des développeurs, ça fait une somme. Mais si on multiplie leur productivité, je pense qu'un manager, il est quand même pas mal content de ça, quoi. Il sera certainement enclin à le payer, quoi.
20 minutes, c'est 20 euros par mois, c'est un quart d'heure de gagner, quoi.
Ouais, et puis je crois qu'il faut pas tellement le prendre comme ça, quoi. Comme je le disais, c'est pas forcément en termes de « je vais en faire plus », donc ça, c'est la productivité. Ça peut séduire un certain nombre d'entreprises parce que c'est ça qui rapporte du fric. Mais je pense que c'est surtout qu'on est arrivé aujourd'hui à une étape où la complexité et le niveau de vitesse de changement des technologies est tel dans notre métier qu'en fait, c'est soit tu utilises des trucs intelligents ou soit tu ne peux pas faire le boulot tout simplement ou tu vas le faire mal. Donc, je ne le vois même pas comme un gain de productivité. Je vois tout simplement comme, au même titre que je ne me verrais pas faire tout un soft MAUI avec juste le bloc-notes. Il faut Visual Studio, un débogueur, machin, etc. Donc, je pense que c'est aussi là-dessus qu'il faut inciter, parce que sinon, il y a des gens qui vont dire wow, pour gagner un quart d'heure, est-ce que je vais payer 20 euros par mois, par mec? Et ce n'est pas vrai, en fait. C'est, est-ce que si je ne veux pas payer ces 20 euros, en fait, est-ce que je continue à avoir une boîte d'informatique, quoi? C'est ça le truc.
Non, c'est parce que tu es trop vieux, tu n'arrives plus à suivre, c'est pour ça. Que...
Ouais,
bon, sur ces bonnes paroles, eh bien, écoutez, je vous remercie. Et puis. On va aller sabler le champagne. Olivier, tu n'étais peut-être pas au courant. Donc il y a Damien qui a été nommé Microsoft MVP depuis hier. Ce matin, oui. Donc on va aller fêter ça avec le champagne.
C'est très bien.
Allez,
super.
Allez, bonne soirée, à la prochaine.
Bonne soirée, à plus. Ciao.
Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez venir discuter de cet épisode sur notre serveur Discord devdevdev.net/discord ou nous envoyer des messages sur notre compte Twitter devdevdev.net tout en lettres. Alors, à très vite !